Alors, je vous présente Brigitte Stern. Elle est née en 1942. Elle est licenciée en droit, diplômée de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, docteur en droit, avocate, agrégée des facultés de droit. Elle est, après une carrière de juriste qui l'a amenée à l'université de Dijon, de Paris-10-Nanterre, elle est actuellement professeure titulaire à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, de même que professeure invitée dans diverses universités, notamment américaines. Elle a des activités de consultation internationale et elle est notamment présidente de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles depuis octobre 1999. Sa spécialité, c'est le droit international. Je vous indique quelques-unes de ses publications. Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe, en 1991, Simon Chrétien. La guerre du Golfe, le dossier d'une crise internationale. La documentation française, en 1993. Deux ans plus tard, 20 ans de jurisprudence de la Cour internationale de justice, 1975-1995. Elle est donc particulièrement qualifiée pour nous parler de État et souveraineté. Donc je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite vos questions. Merci.
Bonjour, je vais donc vous parler d'État et souveraineté. On pourrait donner comme sous-titre la souveraineté de l'État face à la mondialisation. No man is an island, aucun homme n'est une île, disait le poète John Donne. Et effectivement, nous savons tous que l'homme ne vit pas isolé, qu'il vit dans des communautés, la communauté familiale, la société tribale, les sociétés religieuses, politiques, sportives, voire secrètes, et bien entendu la société étatique. Alors quel est le rôle de la société étatique? Quelle est la place particulière de la société étatique dans ce maillage? L'État, peut-on dire, se distingue fondamentalement des autres collectivités humaines en ce sens qu'il est précisément une collectivité souveraine. Souveraine, c'est-à-dire qu'il a le monopole de la force armée organisée légitime. Alors, à ce monopole de la force armée organisée est bien entendu lié le monopole d'édiction du droit. Alors, on conçoit facilement qu'un droit qui est destiné à s'appliquer au sein d'un État qui a le monopole de la force ne va pas être identique à un droit, le droit international, qui est destiné à s'appliquer entre les États qui ont chacun seulement le monopole, la force sur leur territoire. Autrement dit, le droit international, si vous voulez, apparaît comme un droit s'appliquant dans une société où il n'y a pas, et on le voit bien tous les jours, de centralisation de la force armée organisée. Alors cette structuration différente de la société nationale et internationale va faire que le concept de souveraineté, qui est un peu l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, n'est pas le même dans l'ordre interne et dans l'ordre international. Et je parlerai des deux. Dans la société interne, la souveraineté est exclusive. Hein, on le sait bien, c'est l'État qui a la compétence illimitée. On dit en théorie du droit la compétence originaire. En vertu de cette compétence est créée la Constitution et tout l'ordre juridique qui en découle. Dans l'ordre international, la situation est un peu différente puisque la souveraineté prend un autre sens. En effet, dans la société internationale, la souveraineté est partagée entre les différentes entités souveraines que sont les États. Donc la souveraineté n'est pas partagée avec une souveraineté supérieure, il n'y en a pas, il n'y a pas de souveraineté supérieure aux États, mais est partagée entre les différents États. Je reprends un peu ces deux aspects, c'est-à-dire que l'État n'a aucune puissance au-dessus de lui, et ceci vient de ce fait qu'il a le monopole de la force. Autrement dit, l'État, dans la société internationale, n'est soumis à aucun législateur, aucun exécutif, aucun juge, s'il ne l'a pas au préalable accepté. Pour ne donner qu'un exemple, on sait très bien que les États ne peuvent pas être traduits dans la Cour internationale de justice s'ils n'ont pas donné leur accord. Alors, vous voyez que, en d'autres termes, du fait de sa souveraineté internationale, l'État, sur le plan international, ne peut pas être soumis à une autre volonté que la sienne, même si cette volonté formelle, bien entendu, peut être largement contrainte par le jeu des pouvoirs, des contraintes idéologiques, des rapports de puissance économique. Alors, si l'État n'a aucune puissance au-dessus de lui, il a des puissances à côté de lui. Et la coexistence de ces États va limiter sa souveraineté. Et donc, sur le plan international, cette souveraineté qui était absolue sur le plan interne, qui est partagée sur le plan international, va être limitée. Limitée donc d'abord parce que cette limitation est une conséquence logique de l'existence de plusieurs États. De la même façon que la liberté de chacun, de chaque individu, s'arrête où commence celle des autres, la souveraineté de chaque État s'arrête là où commence celle des autres. Et on aura l'occasion d'en reparler à propos de l'application extraterritoriale du droit, notamment les lois Helms-Burton, dont je redirai un petit mot tout à l'heure. Mais il y a plus. La souveraineté des États n'est pas seulement limitée par l'existence d'autres États, elle est aussi limitée parce que l'État ne s'inscrit pas seulement dans l'ordre juridique, hein, dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent, mais dans le monde réel. Et le monde réel est fondamentalement inégalitaire, et il en résulte donc aussi que la limitation de la souveraineté de l'État dans l'ordre international est une conséquence historique des inégalités de fait. Ce n'est pas la peine que j'élabore longuement, vous savez tous qu'il y a de nombreuses inégalités entre les États, inégalités géographiques, concernant la taille des États, concernant leur accès à la mer, par exemple, inégalités économiques touchant à la fois leur dotation en richesses naturelles, le développement de leur appareil de production, inégalités militaires, inégalités, etc. Inégalité aussi par rapport à d'autres puissances économiques comme les multinationales. Vous savez tous que de nombreuses multinationales ont un chiffre d'affaires bien plus élevé que les PNB des États. La souveraineté des États, donc, apparaît comme dépendante à la fois de l'équilibre politique et économique et de la structuration juridique de la société internationale. Alors, si on veut essayer de cerner l'évolution de ce paradigme de souveraineté, je crois qu'on peut le faire en distinguant deux grandes périodes. Je prendrai d'un côté, c'est assez banal, mais ça nous permettra de voir un peu, de balayer toute l'évolution de cette souveraineté, qui est d'un côté le passé, d'autre côté le présent et l'avenir. Alors, je vais d'abord, le passé, si vous voulez, va aller jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et le présent, c'est depuis, et puis on va déboucher, bien sûr, sur le XXIe siècle, sur lequel je ne ferai évidemment que quelques prévisions ou même plus modestement, quelques souhaits. Alors, si on voit le passé, je crois que l'évolution de la souveraineté dans le passé peut, elle aussi, disons, se moduler, enfin être modulée selon deux grandes périodes. Et je prendrai, mettons, jusqu'au XIXe siècle, enfin le XIXe siècle, et puis ensuite notre siècle, puisqu'on est encore dans le XXe. Si on regarde un petit peu le XIXe siècle, enfin ce qu'était l'État jusqu'à la fin du XIXe siècle, début du XXe, on peut parler d'un rôle traditionnel de l'État. Et ce rôle traditionnel, je le qualifie de la façon suivante, c'est la période de l'État gendarme et de la souveraineté politique. Donc le rôle traditionnel de l'État, c'est la souveraineté politique. Un petit rappel rapide, on sait que l'État est défini comme une collectivité humaine vivant sur un territoire déterminé sur lequel s'exerce une souveraineté. Hein, tous les étudiants de première année ont droit à ça. Il y a trois éléments, la population, le territoire, la souveraineté. Et c'est bien sûr sur la souveraineté qu'on se centre ici. Alors, sur le plan interne, la fonction principale de l'État durant cette période classique était de garantir la sécurité des citoyens. Donc l'État n'intervient pas comme acteur dans le champ économique, il intervient comme poseur de normes, il intervient pour créer les conditions optimales du développement économique. C'est l'époque du laisser-faire, laisser-passer, le triomphe du capitalisme libéral, avec ce rôle justement limité de l'État, qui va uniquement avoir pour but de créer les conditions d'ordre, de sécurité, de prévisibilité permettant le meilleur développement des activités économiques. Alors l'existence de l'État et de son ordre juridique a sûrement été un facteur important du développement du libéralisme. Un auteur, par exemple, a pu dire « L'économie ne se développe pas durablement sans un supplément d'âme juridique ». Je rappelle cela parce qu'on oppose parfois de façon tout à fait simplificatrice le droit et l'économie. Et je pense que l'économie ne s'est développée que dans son cadre juridique. Alors, sur le plan international, que devient cette conception limitée du rôle de l'État sur le plan interne ? Eh bien, sur le plan international, cette conception du rôle limité de l'État a évidemment des conséquences. Le droit international classique n'était qu'un droit de juxtaposition. Tout ce qu'on demandait aux États, c'est de ne pas interférer avec les autres. Et c'est donc une sorte de conception négative, et ce n'est pas un hasard que le droit international classique était surtout fait d'interdictions. Interdiction d'interférer avec la propriété des étrangers, interdiction d'interférer avec les États étrangers, d'où toutes les immunités de juridiction, d'exécution, immunité diplomatique, etc. Exclusivité de la compétence territoriale, interdiction de règles extraterritoriales. Voilà un peu le schéma du droit classique. Donc, vous voyez un rôle de l'État, une souveraineté politique. L'État pose les cadres, mais a tout de même un rôle assez limité. Si on passe maintenant au XXe siècle, je parlerai alors du rôle moderne de l'État. Et si ce rôle moderne de l'État peut être qualifié d'État-providence, et cette période est celle de l'épanouissement de la souveraineté économique. Donc le rôle moderne de l'État, c'est l'État-providence et la souveraineté économique. Alors le premier changement relatif au rôle de l'État s'est évidemment produit au début de notre siècle, c'est-à-dire lorsque l'État, sous des formes plus ou moins radicales, a commencé à être impliqué directement en tant qu'acteur dans l'économie. Sur le plan interne, bien sûr, le moment clé, c'est la révolution d'octobre en Russie, 1917. L'État soviétique se définit à ce moment-là comme l'acteur économique principal, propriétaire de tous les moyens de production. Le but de l'État, c'est donc plus seulement la sécurité, c'est aussi le bien-être économique, le développement économique des citoyens. Une évolution du même ordre, vous n'êtes pas sans le savoir, a eu lieu à partir de la crise de 1929 dans les démocraties occidentales. L'État a aussi commencé à s'impliquer dans l'économie, à intervenir dans le champ social, dans le champ économique, sous l'appellation d'État-providence. Et cette évolution, cette implication de l'État dans l'économie a été relayée dans les années 60, au début, à partir de 1960, au moment de la décolonisation, par les États-nés de la décolonisation, puisque aussi, face au sous-développement, ont dû choisir un modèle étatique. Et face à ce défi du sous-développement, c'est vrai qu'ils ont souvent choisi l'interventionnisme d'État, plus ou moins sur le modèle soviétique, l'utilisation d'entreprises publiques, une forte implication de l'État dans l'économie. Mais en même temps, même lorsqu'ils faisaient des choix capitalistes, et il y en a qui l'ont fait, ils recouraient le plus souvent tout de même à une planification plus souple, mais à un modèle d'État-providence omniprésent, avec un rôle, encore une fois, extrêmement important dans les pays en développement de toutes les entreprises publiques. Donc, si on résume, on voit que, qu'il s'agisse des pays de l'Est, à économie centralisée, des démocraties occidentales à économie capitaliste, ou des pays en voie de développement, le XXIe siècle a assisté à une implication certaine de l'économie dans le de l'État, dans le fonctionnement de l'économie, et non pas seulement en tant que législateur posant le cadre, mais en tant qu'acteur économique orientant et poursuivant l'objectif du bien-être et du développement économique des individus. Sur le plan international, bien sûr, ce changement de la conception interne de la souveraineté a aussi eu des conséquences, et là aussi, on peut dire qu'on est passé d'un droit de coexistence à un droit de juxtaposition à un droit de coopération. Droit de coopération qui s'est fait surtout par le biais des organisations internationales nées après la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de secteur où il n'y a pas eu d'organisation internationale. L'Organisation internationale du travail, l'Organisation internationale de la santé, l'Organisation internationale, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. La préoccupation des États par rapport à l'économie a culminé, si on peut dire, avec la demande du nouvel ordre économique international par les pays en développement à partir de 1974, moment où a eu lieu ce que les pays capitalistes ont appelé la crise pétrolière, mais qui en fait, pour les pays développés, pour les pays en développement, pour les pays pétroliers, n'était pas du tout une crise, mais la satisfaction, enfin, de leurs revendications. Alors, sur le plan international aussi, cette conception nouvelle de l'État s'est traduite par une revendication des États d'une souveraineté économique, c'est-à-dire d'une souveraineté sur les richesses naturelles, souveraineté sur les richesses, les ressources naturelles, souveraineté sur l'économie. Ces deux concepts, d'ailleurs la souveraineté politique ancienne qui demeurait bien sûr et cette souveraineté économique naissante, peuvent avoir des conséquences radicalement différentes. Elles ont bien sûr un objectif unique, l'indépendance de l'État, mais la souveraineté politique implique les mêmes règles pour tous, tandis que la souveraineté économique peut impliquer et a impliqué des règles différentes, hein, des inégalités compensatrices pour essayer de donner des chances égales à tous les États. Donc ce droit international fondé sur la souveraineté économique, sur la coopération, contenait un certain nombre d'obligations de faire, obligations positives, non plus seulement des obligations négatives, mais obligations positives de faire, soit des obligations de coopération économique entre les États, soit des obligations entre États égaux, soit des obligations d'aide au développement. Voilà très rapidement brossé le panorama du passé. J'en viens maintenant, et je m'attarderai plus longuement sur un second volet de ma présentation. J'aurais pu en faire trois, au fond, le passé, le présent et l'avenir, mais l'avenir, c'est plus des conjectures, et donc je suis restée dans des choses plus concrètes. Donc je vais passer maintenant à l'examen du présent et de l'avenir. Et je vais d'abord me centrer sur le présent en essayant de définir avec vous et en essayant de cerner les contours du rôle contemporain de l'État. Et en essayant de cerner les contours du rôle contemporain de l'État, il faut forcément se poser la question si on assiste à la fin de la souveraineté. Hein, c'est donc pour l'examen du présent, la question clé que je me poserai avec vous, c'est est-ce que le rôle contemporain de l'État équivaut finalement à la fin de la souveraineté ? Ce dont il est question ici, c'est donc un défi majeur, un véritable saut qualitatif qui concernerait le rôle de l'État. Vous savez tous, vous lisez beaucoup de choses sûrement, que dans de nombreuses enceintes, dans de nombreux écrits, on parle de la crise de l'État-nation, on parle de la fin de la souveraineté étatique. Aussi voudrais-je m'arrêter un instant sur ce que je considère comme une soi-disant crise de l'État-nation, donc j'annonce tout de suite la couleur, je ne laisse pas le suspense trop longtemps. Il est vrai que la souveraineté de l'État semble à première vue régresser, hein, sous l'effet combiné de toute une série de facteurs. Et parmi les phénomènes qui semblent objectivement menacer la souveraineté de l'État, je voudrais tout de suite dire qu'à mon avis, il faut distinguer entre les reculs de la souveraineté qui sont acceptés par les États pour justement leur permettre d'être plus performants, pour avoir un meilleur fonctionnement et également au nom d'une solidarité internationale, et les reculs de la souveraineté qui, eux, sont imposés à l'État par l'évolution de la société, l'évolution de la planète. Alors, sans que je prétende ici être exhaustive, il me semble que les principaux aspects entraînant une perte voulue ou subie de la souveraineté de l'État sont les suivants, et je les reprendrai, je donnerai quelques indications sur chacun de ces points. Il y a d'abord un transfert de souveraineté à des entités supranationales. Il y a la naissance d'une sorte d'ordre public international. La globalisation de l'économie, bien sûr, le développement des technologies, la diversification des acteurs aussi de la société internationale et enfin une résurgence des nationalismes, souvent à base religieuse. Donc je vais reprendre ces six points. Tout semble évidemment avoir été dit sur ces phénomènes dont seuls les deux premiers sont librement consentis par les États, mais je vais tout de même assez rapidement les reprendre devant vous. Alors d'abord, premier aspect, le transfert de souveraineté à des entités supranationales. Vous savez tous que les États confèrent de plus en plus souvent des compétences à des organisations internationales auxquelles ils reconnaissent le droit d'agir à leur place. Donc ils confèrent une partie de leur souveraineté à des instances internationales, de façon à mieux remplir, pensent-ils, leurs fonctions. Deux exemples simplement, les États ont renoncé au droit d'utiliser la force et ils ont confié la responsabilité de la sécurité collective à l'ONU, en particulier au Conseil de sécurité. Alors, on sait que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça, mais enfin, sur le plan des principes, c'est comme ça que ça se passe. De la même façon, les États ont, dans le cadre de l'Union européenne, transféré un certain nombre de compétences, c'est-à-dire certains aspects de leur souveraineté, mais pas toute leur souveraineté à l'Union européenne, dans des domaines économiques allant du commerce à l'agriculture, en passant par la monnaie, la politique industrielle, et maintenant, on commence évidemment même avec la politique extérieure commune, la fameuse PESC. Alors, on sait que ces transferts ne sont pas des transferts de la totalité de la souveraineté. Sinon, l'Union européenne serait un super État, un nouvel État continental, ce qui n'est pas encore le cas. Deuxième aspect, naissance d'une sorte d'ordre public international. Si on regarde un peu comment fonctionne la société internationale, on s'aperçoit qu'il y a ce que j'ai appelé une émergence d'un ordre public international qui serait fait de valeurs communes et de biens communs. Si on regarde les valeurs communes, il me semble que celles-ci ont surgi de façon particulièrement claire en réaction aux atrocités nazies après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ont été élaborés et mis sur pied les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Et le rapide essor, à partir de là, du droit pénal international, qui a donc vocation à s'appliquer dans le monde entier, au nom de la communauté internationale, on poursuit aujourd'hui même les individus coupables des crimes les plus graves, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Vous savez tous qu'ont été créés en 1993 le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, en 1994 le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ces deux tribunaux ayant servi de matrice à l'élaboration du statut de la Cour permanente internationale qui a été signé par les États le 17 juillet 1998, même si on sait qu'il faudra sans doute encore de nombreuses années, malheureusement, avant que le nombre d'États suffisant ait ratifié ce statut pour que la Cour permanente internationale existe vraiment. Si on en reste sur le plan des valeurs communes, je voudrais en évoquer quelques autres. On peut relever notamment que traditionnellement était affirmé, et notamment du temps de la guerre froide, le droit de chaque État souverain de choisir en toute souveraineté son modèle économique et social. Ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il semble que se dégage une sorte de consensus général sur la nécessité d'un choix démocratique. On l'a vu à l'œuvre, par exemple, au moment où l'Union européenne a élaboré ses principes directeurs pour la reconnaissance des États issus de l'éclatement à l'Est. On l'a vu à l'œuvre il y a quelques jours dans les réactions américaines aux élections au Pérou. À côté de ce consensus pour la démocratie, vous savez que dans les valeurs communes, les droits de l'homme apparaissent aussi comme des valeurs incontournables auxquelles tous les États doivent aujourd'hui se référer, même si on sait que malheureusement, c'est souvent du bout des lèvres et qu'au niveau de la mise en œuvre effective, on est encore loin d'une réelle protection des individus de la même façon partout dans le monde. Quelques mots enfin de ces biens communs dont la gestion ferait partie de cet ordre public international. On a utilisé pour cela la notion de patrimoine commun de l'humanité. Cette notion a été lancée pour la Lune et les corps célestes, dont on n'a pas voulu que les États puissent se les approprier. Elle a été utilisée aussi pour les grands fonds marins. Et bien sûr, qui ne reconnaîtrait pas aujourd'hui que l'environnement fait partie de ce patrimoine commun de l'humanité auquel tous les États doivent faire attention, que tous les États doivent gérer au nom de tous. Et on pourrait dire la même chose du patrimoine commun, du patrimoine culturel de l'humanité ou du génome humain. Donc vous voyez, il y a toute une série d'éléments qui semblent s'imposer aux États. Troisième élément du recul de la souveraineté, bien sûr, la globalisation de l'économie. Tout semble aussi avoir été dit là-dessus, sur la globalisation de l'économie. Je rappellerai la formule de Bertrand Badi qui a parlé de la recomposition de l'espace par la mondialisation de l'économie. Et bien sûr, l'économie mondiale, les États restent, l'espace juridique reste séparé en différents ordres juridiques nationaux. Donc cela pose un problème. Qu'en est-il donc de cette globalisation dont on parle tant, de cette mondialisation? D'abord, je voudrais dire qu'à mon avis, elle n'est pas née il y a quelques années. Cette globalisation, je pense, a débuté il y a bien longtemps, mais surtout, moi je situerai son véritable commencement au début du 18e siècle, du 19e siècle, plus exactement en 1858, lorsque le premier câble téléphonique sous-marin a traversé l'Atlantique. Et je crois que là, on en est un peu au début. Autre point, bien sûr, cette mondialisation se poursuit encore, même si elle a sans doute déjà atteint un stade assez avancé. Que recouvre cette mondialisation économique? Trois phénomènes principaux, me semble-t-il. L'internationalisation du commerce, la planétarisation des grandes firmes multinationales à travers les fusions et les acquisitions, et la globalisation des flux de capitaux. Deux, trois mots sur ces quelques phénomènes bien connus. Le fait que le commerce, d'abord, ait tendance à dépasser les frontières étatiques n'est pas un phénomène récent. Et le juriste Oriou, déjà au début du siècle, écrivait « Le commerce des échanges a une tendance invincible à s'extravaser. Il ne s'enferme pas à l'intérieur d'une nation. Il a ses sphères territoriales, mais elles ne se confondent pas avec les frontières politiques. Cela s'appelle des marchés. » Les sociétés multinationales ont elles aussi tendance à prendre la planète comme aire de jeu. Et la World Company des guignols de l'information n'en est que la caricature. Elles peuvent évidemment jouer un rôle qui porte gravement atteinte à la souveraineté des États compte tenu de leur puissance économique. Chacun sait qu'au moment de la chute d'Allende au Chili, le produit national brut du Chili était inférieur au chiffre d'affaires de ITT, dont on a beaucoup dit qu'elle a joué un rôle important dans la chute de ce président. Enfin, paroxysme de la mondialisation, bien sûr, les marchés financiers, les flux financiers, sans doute parce qu'il s'agit de biens immatériels qui peuvent très facilement traverser les frontières. Quatrième élément, très lié avec celui-là, le développement des technologies. On sait que la globalisation n'est pas qu'économique, que le développement des technologies d'information, de communication a permis au monde de devenir un village planétaire. Un exemple de ces dernières techniques qui permettent l'ignorance des frontières, qui semblent faire reculer la souveraineté étatique, est bien sûr la télévision sans frontières. Vous savez que cette télévision permet à toute personne privée dotée d'une antenne parabolique de capter des émissions qui viennent donc directement chez elle sans passer par un récepteur central qui peut être contrôlé par l'État. Autrement dit, l'État souverain est impuissant à interdire les émissions, sauf évidemment à interdire les antennes paraboliques, et certains États l'ont fait, par exemple l'Iran. Transcendent bien sûr également les frontières de l'État, tous les autres nouveaux moyens de communication, fax, email, Internet, bien sûr, qui m'apparaît comme une des révolutions essentielles de notre siècle. Bien sûr, tous ces deux types de mondialisation, si tant est qu'on peut les distinguer, la mondialisation économique d'une part, la mondialisation de l'information d'autre part, se confortent l'une l'autre. Le développement des moyens de communication s'effectuant en effet à la fois au service des interactions entre les hommes, de la création d'une société mondiale, mais aussi au service des échanges commerciaux, avec le développement de ce que l'on appelle l'e-commerce, la nouvelle économie, l'économie virtuelle. Cinquième élément de ce recul apparent de la souveraineté des États, c'est la diversification des acteurs. des relations internationales. L'État a toujours été, a toujours semblé l'acteur privilégié du droit international, des relations internationales plus généralement. Mais aujourd'hui, de nombreux autres acteurs ont vocation aussi à avoir leur mot à dire sur le plan planétaire. J'ai déjà fait mention du rôle des multinationales, bien sûr. Ce sont des acteurs majeurs des relations internationales aujourd'hui. Je rappelle encore une fois, enfin je ne l'ai pas dit exactement sous cette forme, mais je rappelle que plus de la moitié des 100 entités les plus riches dans le monde aujourd'hui sont des multinationales. Ça veut dire que l'autre moitié seulement sont des États. Bien sûr, toute réflexion sur le rôle de l'État aujourd'hui, sur le rôle de l'État souverain, sur la place de la souveraineté, ne peut pas passer sous silence le rôle d'un autre acteur dont vous en attendez sans doute tous, dont je parle, qui sont les ONG. Elles utilisent pour faire les médias, pour faire pression, parfois avec succès, souvent avec succès sur l'opinion publique internationale. Mais là encore, je ne suis pas sûre que les ONG remettent fondamentalement en cause la souveraineté des États dans leur pouvoir normatif, notamment, parce qu'en règle générale, ce qu'elles veulent plutôt, c'est influencer les États plus que les remplacer. Elles se veulent les porte-parole des mouvements sociaux et veulent que leurs intérêts soient pris en compte dans l'élaboration des règles internationales qui restent une élaboration étatique. Je vais vous donner un exemple. C'est celui qui a été un exemple qui remonte à 1998, au moment où a été lancée la Marche mondiale des enfants. Cette Marche mondiale des enfants a parcouru 98 000 kilomètres pour protester contre l'exploitation du travail des enfants. Et elle est arrivée, donc organisée par un très grand nombre d'ONG, elle est arrivée à Genève en juin 98, au moment où s'ouvrait la conférence internationale de l'Organisation internationale du travail. Et le directeur du BIT, du Bureau international du travail, a accueilli les enfants par ces mots. Il a dit « À la mondialisation de l'économie doit correspondre une mondialisation des forces vives de la société. Fort du soutien de millions d'enfants et d'adultes qui, dans les 117 pays traversés, luttant dans leur quartier, leur village et leur communauté contre le travail des enfants, la marche est un exemple de cette mondialisation de l'action. On sait que, par la suite, très peu de temps après, les États ont adopté cette convention contre le travail des enfants. Donc, vous voyez, les ONG influencent les États, à mon avis, plus qu'elles ne veulent les remplacer. Il y aurait d'autres exemples du rôle des ONG. La Cour pénale internationale n'aura jamais vu le jour sans une action forte, constante des ONG. La Convention d'Ottawa, comme je suis présidente de la Commission des mines, je le sais bien, qui interdit les mines antipersonnelles, n'aurait jamais vu le jour sans ICBL, International Campaign for the Banning of Landmines, qui a eu, comme vous le savez, le prix Nobel. Et enfin, dernier exemple qui est à l'esprit de tous, l'échec du sommet de l'OMC à Seattle, évidemment, est à mettre à l'actif de la société civile internationale et montre qu'on ne peut plus l'ignorer, que les États ne peuvent plus l'ignorer en ces temps de mondialisation. Je dirais un dernier mot très rapide du dernier phénomène qui semble faire éclater la souveraineté des États, remettre en cause la souveraineté des États, c'est la résurgence des nationalismes. Alors ça, c'est une attaque de l'État qui viendrait de l'intérieur plus que de l'extérieur, qui était le cas de tous les phénomènes précédents. Alors, il est banal de constater qu'aujourd'hui, on assiste à une résurgence souvent sanglante des nationalismes, souvent à base religieuse. Ce phénomène est peut-être à mettre à l'actif, si on peut dire, ou au passif, de la fin des idéologies. En effet, je crois que les peuples, les groupes ont besoin d'identification et se sont souvent identifiés à des idéologies. N'ayant plus cette possibilité, eh bien, il me semble que la nation, la nationalité, au sens souvent étriqué, peut être un processus d'identification pour ceux qui ont perdu leurs repères idéologiques. Quoi qu'il en soit, cette montée du nationalisme a été constatée en ex-Yougoslavie, en toutes sortes d'endroits, mais menace bien sûr aussi l'existence des États souverains. Alors vous voyez que tous ces phénomènes brouillent quelque peu l'image que l'on avait de la souveraineté de l'État. Alors, est-ce à dire qu'il faut souscrire aux analyses apocalyptiques qui prédisent la mort annoncée de l'État souverain? Alors, je n'en crois rien, et encore une fois, je ne pense pas que ce soit qu'une telle évolution serait souhaitable. Il est cependant inéluctable que les contours de la souveraineté soient repensés. Et je voudrais alors, dans un dernier point, réfléchir un petit peu avec vous sur le rôle futur de l'État, ayant vu que le rôle actuel, c'était pas complètement la fin de la souveraineté, même s'il y a de sérieux coups de boutoir contre la souveraineté. Et donc, ce rôle futur de l'État, je le vois un peu, j'ai pas trouvé un mot parfait, mais comme s'incarnant dans une sorte de souveraineté culturelle, l'État jouant un peu un rôle de communauté de vie. Donc, le rôle futur de l'État, ça serait l'État en tant que communauté de vie et la souveraineté culturelle. Alors, on l'a vu, on dit souvent, il est courant de dire aujourd'hui que l'État se dissout dans la mondialisation. La question est donc posée de savoir si l'État n'a plus aucun rôle à jouer face aux puissances économiques notamment. Certes, la globalisation de l'économie, de l'information, des communications est devenue une réalité. Certes aussi, la libéralisation et la déréglementation semblent présider à cette évolution. Mais la main invisible du marché n'est pas une garantie de prospérité et de justice pour tous. On sait bien que la théorie des coûts comparatifs de Ricardo, qui est à la base du libéralisme, donc qui est toujours d'actualité, optimise le gain global, mais ne nous dit rien sur la répartition de ce gain global, et cette répartition, on le sait bien, est fondamentalement inégalitaire. Autrement dit, il y a un besoin de régulation du libéralisme sauvage, et ce besoin se fait de plus en plus jour, et pas seulement dans les exposés des professeurs ou les revendications des gauchistes. Il y a des autorités économiques telles que Jacques Delarosière, président de la Banque mondiale, Michel Camdessus, ancien directeur général du Fonds monétaire, qui ont mis en garde contre un libéralisme sans frein. Je vais juste lire une citation du premier qui met en garde contre les dangers globaux. Dans un monde globalisé, nous dit-il, les dangers aussi sont globaux, ceux de la pollution de l'atmosphère, des épidémies, des dévaluations compétitives, et puis on pourrait ajouter du trafic de drogue, la criminalité internationale. Ce monde requiert donc des règles et une surveillance effective qui s'applique aux forts comme aux faibles. Tel est le défi du XXIe siècle. Il en va de la paix, il en va aussi de nos nations, qui, malgré les contraintes et les chances offertes par la mondialisation, doivent absolument conserver leur identité. Donc un appel au rôle de la nation. Certains pensent que, donc inégalité, besoin de régulation pour mettre fin à ces inégalités. Alors certains pensent que la révolution d'Internet va d'un coup de baguette magique effacer les inégalités. Rien n'est moins sûr, et au contraire, peut-être que dans une vision pessimiste, on pourrait dire qu'Internet, malgré tous ses bénéfices, peut être facteur d'inégalité. Je rappellerai juste ici, peut-être connaissez-vous ce chiffre, mais il est impressionnant, qu'il n'y a qu'un pour cent de la population mondiale qui a un accès à Internet. Ou encore, autre chiffre, dans l'espace Europe-États-Unis, une personne sur six utilise Internet, alors qu'en Afrique, c'est une sur 5 000. Donc, vous voyez que ce ne sera pas par Internet qu'on résoudra tous les problèmes. Alors, que faire? Quelques mots très rapides des modèles possibles de régulation de la mondialisation. On peut d'abord voir qu'il y a des tentatives. Je vais essayer de voir. Donc, on a vu. L'économie est mondiale, globalisée, les États sont nationaux. Donc, il faut réguler cette économie mondiale. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a des possibilités. Alors, première idée, qu'a eu forcément un État puissant, c'est la tentative de régulation unilatérale par un État puissant qui décide d'étendre son ordre juridique à l'ensemble du monde. Et c'est ce que les États-Unis font assez souvent. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, avec les lois Helms-Burton et D'Amato, par lesquelles ils ont, qui s'adressaient au fond à toutes les entreprises dans le monde, par lesquelles ils ont cherché à imposer à toutes les entreprises dans le monde une certaine politique à l'égard de Cuba, de l'Iran et de la Libye. Si des entreprises, n'importe lesquelles, françaises, canadiennes, japonaises, sud-africaines, commerçaient avec ces trois pays ou investissaient, je ne peux pas entrer dans les détails, eh bien, elles étaient sanctionnées par les États-Unis. Leurs biens pouvaient être saisis aux États-Unis. Donc, vous voyez, tentative impériale de réguler le monde par le droit américain. Alors, cette tentative impériale d'extension d'un ordre juridique territorial à l'ensemble de la planète, outre qu'elle est parfaitement contraire au droit international existant, doit être dénoncée et ne peut évidemment pas être une solution pour la réglementation de la globalisation. D'autres systèmes sont imaginables, notamment la régulation multilatérale par les pouvoirs privés. On a vu que les multinationales jouent un rôle important. Et elle se pose en réalité souvent en rivale des États pour ce qui est de la création d'un certain nombre de règles internationales. Ceux qui sont familiers avec ces questions savent tous que ces règles posées par les multinationales sont regroupées sous le nom de l'ex mercatoria, la loi des marchands, qui est donc en compétition avec la loi des États. Ce système, bien sûr, a souvent été dénoncé en ce qu'il met en cause la souveraineté des États, en ce qu'il est une appréhension de l'espace juridique international par les pouvoirs économiques privés. Mais il faut bien voir que ce système normatif ne s'est développé qu'avec la tolérance des États. On pourrait aussi parler de la lex internautica, par laquelle on essaye d'autoréguler l'Internet. Bien sûr, les États ne restent pas spectateurs et tentent également de maîtriser la mondialisation. De deux façons, soit par une régulation régionale, par le biais des organisations régionales, et j'ai déjà parlé de l'Union européenne, soit par une régulation universelle, par le biais d'organisations universelles, et bien sûr, ici, il faut parler de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui, grâce à son organe de règlement des différends, qui est intervenu, vous le savez, dans l'affaire des hormones, de la banane, etc., est en passe, à mon avis, de devenir le grand régulateur du monde de demain. Alors, bien sûr, toutes ces régulations par les organisations internationales n'ont d'effectivité que si elles s'appuient sur les États. Et donc, je vais esquisser dans les quelques minutes qui me restent le rôle futur de l'État tel que je le vois. Il me semble en effet que l'État peut et doit jouer un rôle important dans la régulation du libéralisme. En effet, pour que les règles internationales qui sont indispensables pour réglementer l'économie, qu'elles soient posées par des organes régionaux, internationaux ou autres, eh bien, pour que ces règles soient effectives, il faut que les États qui sont à la base de la réglementation soient efficaces. En effet, tant qu'il n'y aura pas d'armée mondiale, tant qu'il n'y aura pas de police mondiale, les États resteront, directement ou indirectement, les vecteurs uniques de création et d'exécution du droit, et ceci aussi bien du droit national qu'international. Donc ça, c'est déjà une première raison pour laquelle il me semble que les États doivent être très forts. Mais il y a bien d'autres raisons qui militent pour que l'État souverain ne disparaisse pas. Il me semble que certaines choses ne peuvent pas être réglées et ne doivent pas être réglées au niveau global. Les États ont en effet pour tâche de préserver la diversité idéologique, politique, culturelle, linguistique, juridique aussi. Les États donc doivent jouer, à mon avis, un rôle d'arbitre entre le marché et la société, parce qu'il y a des besoins sociaux qui ne sont pas pris en compte par le marché. Ils ont également une fonction que j'appellerais de dépositaire de valeurs non marchandes, les valeurs, s'il en reste, mais espérons-le, les valeurs culturelles, valeurs de la démocratie, des droits de l'homme dont on a parlé. Ils ont également une fonction d'organe de solidarité, car seuls les États peuvent corriger les inégalités créées par le développement de l'économie. Seuls les États conscients de leur mission peuvent assurer un minimum de partage social, de solidarité nationale. Je rappellerai juste cette formule de Monique Chemier-Gendreau dans un ouvrage « Humanité et souveraineté ». Les futurs citoyens ne pourront se passer ni d'ancrage territorial, ni de niche humaine de solidarité intermédiaire entre l'un de l'individu et le tout de l'espèce. L'État-nation peut encore trouver là une grande utilité. Enfin, last but not least, peut-être, les États peuvent être ou doivent être ce que j'appellerais des miroirs d'identité. Bien qu'au seuil du troisième millénaire, pris dans ce maelstrom de la mondialisation, nous nous sentions sans doute de plus en plus citoyens du monde et fiers de l'être, je crois qu'il faut aussi pouvoir s'identifier, en tout cas c'est mon cas, à une communauté à l'échelle humaine, s'enraciner dans une société plus petite que la planète, qui a une histoire commune, qui veut la poursuivre, histoire commune qui peut avoir ses qualités et ses défauts, mais tout de même, en souhaitant la poursuivre, qui a un caractère unique, irréductible à tout autre, parce que sinon, il y a un risque, je crois, d'être écrasé par la mondialisation. Je vous remercie.
En fait, il y a toujours un rapport de force auquel vous avez fait allusion. Au point de vue historique, on peut se demander si on ne pourrait pas faire une organisation mondiale qui rappelle un peu le pouvoir du pape autrefois sur les souverains des États, précisément, et qui était admis par tous les États, disons, au moins européens. On a l'impression quand même, d'une façon générale, et vous l'avez souligné, que l'économique, le développement, la mondialisation économique n'a pas été suivie par une mondialisation politique et juridique. Et ça, c'est quand même très dommageable. Finalement, étant donné que l'homme étant ce qu'il est, je pense que le mieux, quelle que soit l'organisation qu'on préconise, est toujours qu'il y ait des contre-pouvoirs à des pouvoirs.
Je réponds tout de suite. Le pape, enfin pour l'instant le pape c'est l'ONU et l'OMC réunis. Non, c'est clair qu'il faut une régulation au niveau mondial. Je partage tout à fait votre avis que la mondialisation politique et juridique n'a pas suivi, mais elle est en train d'essayer de suivre. C'est justement l'objet de ce que j'ai essayé de dégager. L'économie va toujours plus vite, on le sait bien. Et les juristes, malgré leur imagination, sont toujours un petit peu à la traîne de l'économie. Ça, je devrais peut-être pas le dire, mais je crois que c'est quand même vrai. On essaye de corriger. Et un point que je n'ai pas dit, mais si le libéralisme, on le laissait fonctionner complètement. C'est pas le pape qu'on aurait au sommet, c'est une multinationale qui régenterait tout. Le droit est là, par exemple, pour freiner la concurrence, parce que la concurrence aboutirait à la suppression de la concurrence, c'est bien clair. Enfin, c'est pas la peine que j'élabore là-dessus. Donc, il faut absolument des contre-pouvoirs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le droit le pose. Et alors, vous disiez que la mondialisation politique et juridique ne suit pas. Alors, je vais me faire un peu de pub. J'ai écrit un article sur la mondialisation du droit qui va paraître dans la revue Projet. Ces jours-ci, je crois. Alors, ça vous donnera peut-être quelques réponses supplémentaires. Voilà.
Monsieur. Parlez dans le micro.
Oui. J'ai bien compris que vous défendiez avec talent, que vous freiniez le transfert de souveraineté nationale, et je suis assez d'accord avec cette idée. Mais est-ce qu'on ne devrait pas découpler ou délier le concept donc de souveraineté nationale d'un concept qui me paraît qui est le premier un peu enfin, légèrement démodé d'un concept qui me paraît plus essentiel, celui d'indépendance nationale, parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Et c'était déjà une idée de Valéry, de Hannah Arendt, enfin ça n'a rien de nouveau. Et substituer partiellement au concept de souveraineté nationale celui de règles du jeu, d'intériorisation des règles du jeu. Je vous remercie.
Oui, découpler souveraineté nationale et indépendance, je sais que certains le tentent. Moi, je vous avoue que je ne comprends pas très très bien. Alors, Ce que je conçois par contre, c'est qu'on peut découpler certains aspects de la souveraineté et d'autres. Et justement, j'ai essayé d'esquisser ça, peut-être pas de façon tout à fait assez claire, mais je n'ai aucune objection, au contraire, à ce que l'État délègue certains éléments de sa souveraineté à des entités supérieures. Je parle de l'Union européenne, mais ce n'est, alors là, justement... c'est pour être plus performant. Alors, c'est peut-être ce que vous appelez pour être plus indépendant. La France jouera un rôle beaucoup plus important en tant que membre de l'Union européenne et d'une Union européenne forte qu'en tant que France toute petite dans son coin. Donc, si vous voulez, il y a ces transferts de souveraineté-là. Et il y a, à côté de ça, alors, moi, je l'ai appelé souveraineté culturelle. Si vous avez un autre terme, c'est le bienvenu parce que ça ne me plaît pas complètement. C'est plus que culturel. Mais si vous voulez, cette espèce de souveraineté qui fait qu'il y a quand même des communautés qui ont une espèce d'identité, qui ont un plaisir à être ensemble, que... Et moi, là, ça, je suis très opposée. Si vous voulez, je n'aimerais pas que dans mes enfants ou mes petits-petits-petits-enfants disent « Bon, ben moi, je fais partie de telle multinationale et du monde entier » et qu'il n'y ait pas quelque chose de plus convivial, cette niche d'humanité dont on parlait. Voilà.
Monsieur.
Oui, bonjour, madame. Vous n'avez pas du tout parlé d'un droit qui me semble important d'être en train de naître, qui est le droit d'ingérence.
J'en étais sûr.
Dans la mesure, bon, prenons tout de même ce qui s'est passé au Kosovo, ensuite au Timor. Je dirais même que sur un plan civil, ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle vis-à-vis de l'Autriche, il y a là quelque chose qui me paraît important, d'un mouvement qui est important à partir du moment où un État souverain est considéré par une partie de l'opinion internationale ou des États les plus puissants ne faisant pas faillite par rapport à sa tâche, n'étant plus reconnu par une partie de sa population.
Oui, je vous remercie énormément de votre question. Vous avez tout à fait raison. En préparant cette chose, je me suis dit, il faudrait que je parle du droit d'ingérence. Mais le droit d'ingérence, c'est un sujet tellement compliqué. J'ai commencé à vouloir l'intégrer et je me suis dit, bon... J'avais d'ailleurs pensé emmener, j'ai écrit là-dessus aussi, je me suis dit je vais emmener mon texte, je vois que je l'ai oublié. Non, effectivement, le droit d'ingérence entre dans tout ça. Mais alors ça entre dans, et effectivement dans, pour l'écrit, il faudra peut-être quand même que j'en dise un mot, c'est dans le cadre de la naissance d'un ordre public international. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, au nom d'un ordre public international, et on va voir tout de suite ce que recouvre ce « on », il y a le développement de ce que l'on a appelé le droit d'ingérence. Alors là, je le dis tout de suite, moi, je suis très réservée, malgré les aspects droit d'ingérence humanitaire et tous les aspects positifs que ça peut avoir, parce qu'en réalité, qui s'ingère ? C'est toujours les puissants qui vont s'ingérer chez les faibles. C'est toujours... donc il y a cet élément-là. On a des mécanismes internationaux qui permettent de s'ingérer. L'ONU peut s'ingérer si elle le veut. Mais si on laisse, comme au Kosovo, n'importe quelle organisation régionale s'ingérer dans les affaires d'un État, à mon avis, le bien est pire que, enfin, le remède est pire que le mal, parce que vous allez avoir ensuite la Ligue des États arabes qui va s'ingérer, l'OUA, les États, n'importe quelle puissance asiatique. Vous allez dans tous les continents, il y a certaines puissances qui vont estimer avoir la vérité, posséder la vérité et s'ingérer. Donc le droit d'ingérence, à mon avis, c'est quelque chose qui existe, qui se développe, mais je ne suis pas sûre qu'il faille lui donner la connotation positive, aussi positive qu'on lui donne souvent dans les médias. On avait fait un petit débat sur Internet où moi j'avais essayé de résumer, on devait écrire ça en 15 lignes, l'ingérence au Kosovo. Mon centre de recherche avait fait un débat là-dessus sur Internet. Et moi j'avais essayé, et vous allez voir que c'est une réponse embarrassée, j'ai dit que l'intervention au Kosovo était illégale sur le plan international, mais que dans certains cas, une intervention de ce genre, quoique illégale, peut être légitime. Enfin, je ne suis pas la seule à avoir fait ce discours. Quand est-ce qu'elle est légitime ? Eh bien, c'est quand il y a des atteintes massives équivalent à des crimes contre l'humanité et des génocides. Alors, question, est-ce que c'était la situation au Kosovo ? Je n'en suis pas tout à fait sûre, ce n'est pas exclu. Mais non, je pense que oui, et je l'avais dit. Notamment, je suis dans l'équipe juridique de la Bosnie qui fait une affaire contre la République fédérale de Yougoslavie devant la Cour internationale de justice. Donc, je connais la politique de la République fédérale de Yougoslavie. Donc, j'avais dit oui, c'est légitime. Mais il reste une dernière question. Est-ce qu'on a fait les choses la dernière question, il y avait la légalité, la légitimité. C'est la question d'opportunité. Est-ce qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait ça, je ne sais pas tout à fait. Et quand on voit ce qui se passe au Kosovo, l'usine à gaz qu'on est en train de monter là-bas, eh ben, le droit d'ingérence, vous savez, on est en train de fabriquer des juridictions complètement détachées de la RFY, tout en disant dans la résolution 1244 que la souveraineté de la Yougoslavie, c'est l'objectif. Vous savez, la communauté internationale fait aussi des drôles de choses. Donc, prudence extrême, à mon avis, avec le droit d'ingérence. Mais je vais quand même noter de le rajouter. Vous avez bien fait de me le rappeler. Et je crois que je n'en ai pas parlé parce que je savais que ça entraînerait vraiment beaucoup la nécessité de très nombreux développements.
Professeur, dans la fresque très large et très complète et très claire que vous nous avez dressée, vous avez évoqué, sans pouvoir peut-être développer plus longuement, les organisations internationales. Vous avez cité certaines d'entre elles. Pourriez-vous nous donner votre avis sur le poids actuel et l'avenir de ces organisations ? J'ai été très frappée par le développement des critiques. Les critiques contre l'ONU sont très anciennes, mais ce qu'on pourrait appeler la Rolls-Royce des organisations internationales, le Fonds monétaire international, par exemple, a fait l'objet de critiques d'une virulence qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans, par exemple. Et ne parlons pas des critiques adressées au personnel de ces organisations que l'on traite un petit peu comme des boucs émissaires, comme des responsables, qu'il s'agisse des gens de la Banque mondiale, du Fonds monétaire ou des fameux eurocrates. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ce sujet ?
Oui. Merci beaucoup, cher ami. Les organisations internationales sont l'objet de critiques parce que tout est l'objet de critiques. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la parole, quand même, il y a une prise de parole par Internet et notamment les critiques à l'égard du Fonds monétaire qui, vous le savez bien, existait déjà dans les revues spécialisées il y a des dizaines d'années où on disait que notamment la conditionnalité imposée aux pays en développement était négative, etc. Peuvent maintenant apparaître sur la place publique et être prises en compte, disons, un petit peu par tout le monde. Il me paraît évident que les organisations internationales ont un avenir radieux parce que justement, elles sont au niveau, enfin, la plupart d'entre elles sont au niveau mondial. De la même façon, je crois que les organisations régionales joueront un rôle de relais entre cette mondialisation et les États, parce qu'il faudra, les États auront la nécessité, je l'ai évoqué avec l'Union européenne, de transférer certains pouvoirs aux organisations régionales, et j'ai parlé de l'Union européenne, mais le Mercosur, l'ALENA, enfin il y a toutes sortes d'organisations qui vont jouer aussi un rôle de régulation. Alors, maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin, le fond de ma pensée, c'est que petit à petit, la vraie organisation régionale et la vraie organisation qui jouera un rôle, disons, les Nations Unies de demain, à mon avis, et je ne le dis pas avec tellement de plaisir, mais ça sera l'OMC. Parce que l'OMC est la seule organisation internationale aujourd'hui qui a un pouvoir d'imposer une décision aux États. Et les États l'ont accepté par avance. Tous les États qui font partie de l'OMC acceptent la jurisprudence, accepte la décision de l'organe d'appel, enfin de l'organe de règlement des différends de l'OMC. Ça n'existe nulle part. Hein. La Cour internationale, il faut qu'elle demande l'accord. Une fois qu'on est membre de l'OMC, l'OMC peut prendre des décisions. Et c'est comme ça qu'on nous a imposé, enfin nous, à l'Europe, des décisions qui, à mon avis, sont pas bonnes dans l'affaire des hormones. Il n'y a pas de raison qu'on nous oblige à manger de la viande aux hormones. Mais enfin, c'est l'OMC qui l'a dit et on ne peut pas y échapper puisque... Une fois que l'Europe refuse, vous le savez bien, les États-Unis ont le droit de faire des représailles. Alors, il me semble que ce qui serait extrêmement important, ce n'est pas comme les gens à Seattle de dire « à bas l'OMC », mais c'est de dire « vive une bonne OMC » et essayer de travailler à améliorer le fonctionnement de l'OMC, à le rendre plus démocratique, à le rendre plus soucieux d'environnement, de droits sociaux, de droits, etc. Mais si vous voulez, donc voilà, je crois que les organisations internationales vont jouer un grand rôle. Je crois qu'il faut surtout faire attention à l'OMC et que plutôt que de les critiquer, de les déstabiliser, il faut essayer à leur donner un contenu tenant plus compte de l'intérêt de l'humanité. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est comme ça que je vois les choses.
Avant, dernière question, madame.
Est-ce que la criminalisation de l'économie ne menace pas énormément la souveraineté ? J'ai entendu des chiffres dernièrement absolument épouvantables qui dépassent ceux des multinationales. Et dans ce domaine, est-ce que la lutte contre la criminalisation ne serait pas vraiment très importante ?
Oui. Oui, je pense que c'est une des préoccupations. Je l'ai évoqué un tout petit peu, enfin très vite, en parlant de la Rosière. Oui, les mafias, et vous savez, c'est pas par hasard que les mafias jouent un rôle très important, parce que les mafias, elles utilisent la force armée. Et vous savez bien que c'est justement un challenge, enfin, à l'État. L'État, je vous ai dit, a le monopole de la force armée légitime, mais les mafias utilisent la force, hein, ils se tirent dessus. Et bien, c'est bien pour ça qu'on dit que la mafia est souvent un État dans l'État. Hein, c'est parce qu'ils essayent de récupérer une partie. Alors, oui, la criminalité internationale est énorme. Il y a des tas de tentatives, d'accords et tout ça, mais moi, je pense que... Là, on est encore très, très loin de la régulation. Quand on sait ce que rapporte le trafic de drogue, il va falloir vraiment beaucoup d'efforts pour arriver à y mettre fin. Mais ça, j'ai pas de réponse. Hein.
Dernière question, monsieur.
Oui, moi, je voulais intervenir un peu sur le problème du concept de souveraineté. C'est-à-dire qu'il m'a semblé que bon, c'était essentiellement le concept juridique que vous aviez développé. Donc, avec les trois attributs...
Je suis juriste, hein, je fais ce que je sais faire.
D'accord. Mais ma question est, comme il me semble que sur le plan juridique, ce concept est de plus en plus malmené, hein, territoire, État, gouvernement, je me demande si les attributs n'ont pas mené leur propre jeu au détriment, finalement, de cette espèce de chapeau, le concept qui les réunissait. Et donc, j'arrive au problème... politique, finalement, c'est-à-dire le concept politique de la souveraineté qui n'a pas été développé. Et je voulais savoir, en fait, dans une étude prospective, si ce n'était pas donc, dans ce cadre-là qu'on pouvait espérer avoir des États, je dirais, qui retrouvent un petit peu quand même de leur souveraineté. Hein. Bon, je ne parle pas des États-Unis d'Amérique, encore que là, il s'agit d'un État fédéral, c'est complètement différent, mais qui recouvrent quand même... une véritable souveraineté et qui mettent en valeur leur patrimoine, leurs atouts culturels, comme vous l'avez dit, hein, en esquissant le rôle futur de l'État, mais d'une manière un peu objective et voilà, et non originale, c'est-à-dire et nationale. Je dirais que la souveraineté, c'est ce serait donc le fait de se retrouver avec des marques. D'originalité, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller dans le courant de la mondialisation, du tout consommable, vous voyez, du tout... voilà, je m'arrête.
Oui, non, je vais juste peut-être répondre assez rapidement. Bon, il m'avait semblé que j'ai quand même essayé... bon, je suis partie de la souveraineté économique, de la souveraineté juridique, mais j'ai quand même essayé de montrer un petit peu toutes ces... tous ces avatars et toutes ces incarnations possibles, et en tenant compte, me semble-t-il, de ce que vous appelez la souveraineté politique. Alors, je voudrais simplement dire, je vais encore faire une remarque de juriste, que, en tout cas, sur le plan juridique, la définition, malgré tout ce qu'on dit, n'a pas changé. Et par exemple, la commission Badinter, qui est la commission d'arbitrage qui avait été mise sur pied dans le cadre de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. À un moment donné, on lui demandait est-ce que les différents États, la Croatie, la Bosnie, peuvent être des États, etc. Elle a vraiment donné la définition hyper classique hein, de l'État. Je la cherchais là parce que je l'avais notée. Mais bon, avec le territoire, la population et la souveraineté. Alors bien sûr, le territoire maintenant est perméable. Bon, la population un peu moins. Et la souveraineté évolue. Mais bon, je crois que le concept de souveraineté politique tel que vous l'avez énoncé est inclus dans l'évolution de ce que j'ai essayé de tracer de la souveraineté juridique.
Merci.